Jusqu'à la demi, vous écoutez votre magazine d'actualité locale sur CFM Radio. Bonjour tout le monde, c'est Jacques. Au programme aujourd'hui, on parle de la fête de la musique ce dimanche à 17h dans le jardin du Théâtre du Colombier à Les Cabanes. Bernard Ariès et Olivier Blavet proposent un concert de chansons poétiques. C'est gratuit et sur réservation et Bernard Ariès est mon invité dans quelques minutes. Et puis nous retrouvons Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour pour les chroniques plantes et histoire de plantes, et depuis plusieurs semaines déjà, nous abordons les différentes méthodes et moyens qui permettent de fertiliser son sol, renforcer aussi ses plantes ou encore amender tout simplement son sol. Et aujourd'hui, il sera question des fameux purins. Et puis pour compléter ce magazine, dans le coup de projecteur à suivre en seconde partie, Pierre Munoz, Pierrot de la Couronne, qui est actuellement en Russie à un congrès international d'astronautique où il présente un projet de propulsion photonique. Il nous en dit un peu plus dans le coup de projecteur qui est donc à suivre. Le mag démarre en musique. Goran Bregovic et Ashraf Avidan, c'est Baila Leila.
Let us drink our sorrows, say goodbye to our tomorrows, washed away upon our tired shore, and let me see you slowly baila conmigo.
Thank you.
Baila Leila par Goran Bregovic et Achaf Avidan dans le Mac du Tarn. Achaf Avidan qui, soit dit en passant, sera pas très loin de chez nous le dimanche 8 août à Sauveterre d'Ouergue en Aveyron pour un concert dans le cadre du festival Fêtes et Détours de la Lumière du 5 au 8 août organisé par la JAL et entre autres dans la programmation. On retrouve Boulevard Désert, Ayo, Iseult, Les Têtes Raides et puis la compagnie La Machine aussi qui viendra pour un magnifique spectacle et donc Achaf Avidan le 8 août. Et c'est à Sauveterre de Rouergue, je vous le rappelle.
CFM Corde, le mag.
En fait, la musique ce dimanche à partir de 17h dans les jardins du Théâtre du Colombier pour un petit moment en poésie avec notamment Bernard Ariès qui est avec nous. Bonjour Bernard.
Salut Jacques.
Alors tu vas délivrer des chansons poétiques comme ça dans le jardin bucolique du Théâtre Le Colombier. C'est dimanche à partir de 17h en entrée libre. Et tu seras en compagnie d'Olivier Blavet, ton fidèle ami qui est à l'harmonica, j'imagine, pour ce petit concert.
Tout à fait. Ça sera des chansons, donc différentes sortes de chansons, des poèmes connus ou moins connus sur lesquels j'ai mis une musique, ma composition. Et des chansons à moi aussi que j'estime assez proches de cette poésie-là.
Oui.
Il va y avoir du Verlaine, du Superviel, du Paul Jean Toulet, Paul Valéry, Esther Granek aussi, qui est moins connue, mais qui est... j'expliquerai pourquoi. Voilà, Victor Hugo...
Bon, là, j'imagine c'est un moment autant pour ceux qui aiment la poésie que pour ceux qui aiment la chanson française, hein.
Voilà, exactement. Hein. C'est-à-dire que moi, je crois quand même que la chanson française, enfin une certaine partie de la chanson française, c'est quand même très très proche de la poésie. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de mélanges entre Léo Ferré, Aragon, Brel, Barbara, tout ça, c'est quand même de la poésie, quoi.
Oui, oui. Et je dirais qu'il y a une petite note blues très loin, très éloignée, mais grâce à l'harmonica d'Olivier Blavet, on retrouve un peu ce semblant de blues aussi dans ce que tu nous proposes. Et tu le proposes aussi d'ailleurs sur les ondes de CFM Radio depuis peu dans l'émission Poète vos papiers tous les mardis à 12h35. L'idée, c'est de montrer que la poésie, c'est pas forcément quelque chose de barbant. Et ce sera aussi le cas là pour ce mini concert de la fête de la musique au Théâtre du Colombier dimanche à 17h, Bernard.
Oui, alors, moi, la poésie, pour moi, ça ne doit pas être barbant. Hein. La poésie doit être déjà, en général, plutôt compréhensible, hein, parce que, bien sûr, il y a des poètes totalement hermétiques, on ne comprend absolument pas ce qu'ils veulent nous dire. Bon, des fois, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a la musique des mots, mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien quand la poésie, elle dit quelque chose de précis. Ou pas précis, mais elle dit quelque chose aux gens, quoi. Elle les interpelle. Donc oui, la poésie, je pense qu'elle est de plus en plus nécessaire.
Et c'est ce que tu vas partager avec le public ce dimanche à 17h au Théâtre du Colombier, hein, c'est dans le jardin. L'entrée est gratuite, mais la réservation est tout de même conseillée car la jauge sera limitée, hein, pour assister à ce concert de chansons poétiques par Bernard Ariès et Olivier Blavet. Bernard, je te remercie, on te retrouve tout prochainement, mardi prochain à 12h35 sur les ondes de CFM Radio pour l'émission Poète vos papiers où tu partages avec nous, hein, voilà, cette poésie que tu aimes tant. Merci Bernard et très bonne journée à toi.
Salut Jacques, merci. Allez, au revoir.
Matin d'été, les trains et le temps semblent arrêtés. J'attends depuis longtemps sur ce banc. Tu m'as dit je viendrai. J'attends debout sur le quai de la gare. Il fait doux, ton train est à moins le quart. Tout à coup, tu sors en souriant. Oh, oh, les beaux jours. Oh, oh, bah, bah, bah. Ta robe à fleurs est légère comme un bouquet de fleurs. Les yeux gris verts me déchirent le cœur. c'est bon, cette douleur. Et cet instant, je veux m'en souvenir. À présent, j'attendais cet amour tout ce temps. Les jours étaient si lourds. Oh, en pendant les beaux jours. On a fait un bébé à tomber, puis le temps a passé et resté ce témoin de l'amour.
Un titre extrait de son dernier album « Oh, les beaux jours », un titre sur lequel vous avez pu notamment entendre à l'harmonica Olivier Blavet, et tous les deux seront donc en concert ce dimanche à partir de 17h dans le jardin du Théâtre du Colombier dans le cadre de la fête de la musique. Le Mag se poursuit maintenant avec Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vao, ses plantes et histoires de plantes.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Et aujourd'hui, dans Plantes et Histoires de Plantes, on va parler un peu d'un cocktail explosif qui permet aux plantes et au sol aussi d'apprécier le soin qu'on leur apporte. C'est les différents purins, il en existe pas mal, et on va faire un peu un tour d'horizon de tout cela avec Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vaour. Rémi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors les purins, P-U-R-I-N, tu nous le disais dans une précédente chronique, c'était un terme qui était un peu moins utilisé aujourd'hui, peut-être parce que c'est associé à la mauvaise odeur, à une mauvaise image finalement du purin. Donc c'est comme pour en politique, hein, pour un parti, on change de nom dès qu'il y a quelque chose qui dérange. On l'appelle comment maintenant? On les appelle comment maintenant?
Alors, les purins, on appellera ça des extraits végétaux fermentés.
Ah ouais, c'est plus long quand même. Hein.
C'est plus long. Moi j'adore dire purin, c'est vrai que c'est le mot traditionnel, c'est le mot qu'on a toujours utilisé. Après, il y a souvent ce lien qui est fait aussi avec les urines animales. Et donc ouais, ça peut sentir un peu mauvais, donc... Bon, pour ceux qui seraient un peu sensibles, on va dire extrait fermenté, sinon j'adore purin.
Ah, purin, ça passe bien, quoi. Parce que ça fait comme l'UMP et puis les Républicains derrière. C'est plus long et on est perdu. On est perdu. Alors, les purins, il en existe pas mal. Mais sur le principe, c'est la même chose. On prend une plante, on met de l'eau, on ferme et puis on attend.
À peu près. Ouais. Il y a plusieurs écoles, mais oui, on met ça dans de l'eau, ça fermente, ça fait des petites bulles, on remue, et une fois que ça a fini de fermenter, on le filtre et ensuite on le stocke. Et c'est là où il y a différentes écoles. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut plus le remuer, faut pas que ce soit trop aérobie, faut que ça reste en aérobie pour que ce soit une fermentation particulière. Bon, moi, j'avoue que j'ai quand même toujours tendance à les remuer. J'ai pas vu de grande différence entre les différentes techniques. Une plante bien fermentée, aérobie ou anaérobie, ça fait quelque chose de très efficace derrière.
Moi, j'ai même vu des gens qui disaient qu'il y avait un sens dans lequel il fallait toujours le remuer. C'est souvent ceux qui pratiquent la biodynamie.
Voilà, c'est ce voilà, que
qui,
dire, ouais.
C'est toujours dans un sens. Donc, c'est peut-être un peu se compliquer la vie. J'aime bien hein, la biodynamie, surtout les vins biodynamie. Hein, je parle un peu moins fort, mais parce que je sors du sujet. Mais c'est peut-être se compliquer un peu la vie, quoi. L'idée, c'est juste de faire fermenter la plante et d'en récupérer, on va dire, l'extrait.
Voilà. L'idée, c'est de faire fermenter pour que ça dégage des matières minérales, de passer d'une matière organique faite de molécules à une matière minérale faite d'atomes et d'ions pour que ça puisse être accessible aux plantes. Donc là, on parle vraiment de produits Action très forte, très flash, limite risquée selon si c'est mal utilisé, mais c'est un produit qui va être directement assimilable par les plantes. Donc là, le terme d'engrais est vraiment approprié.
On va parler de l'utilisation un peu plus tard, parce qu'effectivement, en fonction de la plante que l'on a fait fermenter, on ne peut pas l'utiliser peut-être de manière pure, on ne peut pas l'utiliser à certains endroits de la plante, pas sur les feuilles, pas sur machin, on va revenir sur tout ça. D'abord un tour d'horizon des plantes que l'on peut fermenter. Et je sais déjà que tu vas me dire tout le monde.
Toutes les plantes. Oui, alors j'en parlais vite fait dans une autre chronique. Effectivement, à partir du moment où on part du principe que l'idée c'est de faire fermenter ça pour obtenir des matières minérales qui soient intéressantes pour les plantes, et ben on va pouvoir utiliser les constituants de tous les végétaux qui sont composés de constituants qui composent les végétaux, enfin, tu vois, la boucle est bouclée. Donc l'idée c'est de faire fermenter tout ça pour en faire les matières minérales pour pouvoir nourrir. Donc toutes les plantes contiennent des matières intéressantes pour les plantes. Et ensuite, on va pouvoir aller vers des trucs un peu plus spécifiques. Donc je les connais pas tous, j'en utilise pas tant que ça, mais on connaît tous l'ortie qui est réputée être très riche en azote, et donc les plantes ont besoin d'azote. Surtout là maintenant pour faire de la végétation. Plus tard, on va avoir la consoude qui va produire plus de feuillage. Et donc, c'est intéressant de voir que même la plante dont on a besoin, elle pousse au moment où on en a besoin. Là maintenant, il y a de l'ortie qui pousse. C'est génial, on a besoin d'azote. Plus tard, on va avoir la consoude qui va pousser. La consoude, elle s'enracine bien en profondeur et arrive à faire remonter la potasse en surface, bon, dans ses feuilles. En utilisant la consoude, donc, on va produire de la potasse qui est plus intéressante pour tout ce qui est floraison, fructification. Donc, plus tard. Ensuite, moi je connais le très connu, le purin de prêle, qui là va produire un peu une carapace autour de la plante, on va aider la plante à se renforcer, donc hyper intéressant pour les renforcer. À côté de ça, on a les purins de fougère qui sont un peu insecticides, insectifuges, le purin de tanaisie qui est un peu cet usage là. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de purins qui vont servir à ça, insecticides, insectifuges, qui vont traiter un peu contre certaines maladies, qui vont être des boosters du sol, donc c'est pas uniquement de l'engrais qu'on va pouvoir produire, ça peut avoir beaucoup, beaucoup d'usages différents.
Et maintenant, en termes d'utilisation, du coup, on dit qu'il faut faire attention. Un purin doit, en général, s'utiliser dilué et on ne doit pas le vaporiser ou arroser certaines parties de la plante avec tel ou tel purin.
Alors, ça dépend. Toujours cette réponse. Mais effectivement, en dilution, si c'est pour utiliser comme engrais à un endroit où il y a des plantes en végétation, si ça doit aller au contact des racines, il faut surtout pas que ce soit pur, c'est quelque chose d'hyper, hyper concentré. On verra après comment on peut le fabriquer, mais si c'est fait correctement, c'est très, très concentré. Donc, moi je dis, pas dépasser les 15%, je préfère même me limiter à 10%, vaut mieux en mettre un peu moins qu'un peu trop. Et à savoir que là, on parle donc de matières minérales qui sont directement utilisées par les plantes et uniquement par les plantes. Les matières minérales ne nourrissent pas les animaux, ne nourrissent pas les champignons du sol, donc c'est uniquement les plantes qui les prennent. Si on en met trop, donc on va avoir de risques, si c'est trop, la plante elle se crame en le prenant et on tue nos plantes. Et si la plante ne prend pas tout, l'autre risque qu'on a, c'est que ça descend dans les nappes phréatiques ou dans les ruisseaux, et donc on va avoir des problèmes de pollution. Donc ouais, 10-15% maximum, jamais dépasser ça sur des plantes. L'autre usage qu'on peut avoir, c'est par exemple, on veut booster un compost. On veut avoir un compost qui très vite part en fermentation. Ben pourquoi pas utiliser un peu de purin, et là il n'y a aucun souci à le mettre pur parce qu'il n'y a pas de plantes qui poussent dans le compost. Et on va pouvoir dynamiser le compost comme ça. Ça peut être pour préparer une zone de culture en vue de planter plus tard dedans. On va pouvoir étaler des matières organiques sur nos zones de culture et arroser avec un purin de plante pure, ou on verra d'autres produits qu'on peut utiliser dans ce but-là. Ça peut être pur à ce moment-là, puisque les plantes vont venir là-dedans un peu plus tard.
Alors parlons de la fabrication du purin. La recette est globalement la même pour à peu près toutes les plantes, hein, je crois. On prend une certaine quantité de plantes qu'on met à fermenter. C'est quoi tes ingrédients, tes doses, toi?
Moi, je fais toujours pas mal de volume parce que j'ai un grand jardin. J'utilise des grosses poubelles noires, là, donc en plastique noir, parce que déjà c'est gros, c'est solide, c'est opaque et la lumière passe pas à travers. Je remplis de plantes que je vais broyer, donc si c'est des orties que j'ai fauchées, peut-être un petit coup de tondeuse dessus pour les broyer un petit peu. J'utilise aussi mes déchets de tonte, mon herbe que j'ai tondue. Donc je vais remplir ma poubelle aux deux tiers et je vais couvrir avec de l'eau un petit peu au-dessus de mes plantes, histoire que ce soit bien couvert. Et ensuite je vais laisser fermenter en remuant un petit peu tous les jours jusqu'à que ça ait fini de fermenter. La petite astuce, c'est à ce moment-là, avant que ça ait bien commencé à fermenter, toutes ces plantes-là, c'est encore rempli d'air et ça va, on va couvrir d'eau et les plantes vont remonter, vont sécher en surface. Donc, mettre une petite grille avec une pierre dessus, quelque chose pour que les plantes restent bien sous l'eau. Et ensuite, on va remuer tous les jours pendant un certain temps. Donc, la question, c'est combien de temps? En pleine période un peu fraîche, on va dire, ça va être 2-3 semaines. Et en plein été, quand c'est très très chaud, ça va être 4-5 jours, ça peut aller très très vite. J'aime bien remuer parce que quand on remue, on va voir qu'il y a des petites bulles qui remontent en surface. Et c'est pas de la grosse bulle qui est liée au fait qu'on remue, c'est vraiment la petite bulle qui montre que ça fermente. Observez ces petites bulles et le jour où ça arrête de faire ces bulles, c'est que la fermentation est terminée. On va rentrer dans un nouveau stade que j'appelle le stade de putréfaction. À partir de là, ça va commencer à pourrir vraiment et à sentir vraiment très fort. Donc quand on dit que le purin d'ortie, ça pue, non, la putréfaction d'ortie pue vraiment. Le purin d'ortie sent l'ortie fermentée, ça sent fort, oui, mais ça ne, pour moi, ça pue pas. C'est même une odeur à laquelle j'ai un peu, c'est ma Madeleine de Proust. Là où j'ai travaillé chez Bernard et Jeanne Bertrand, j'ai énormément de bons souvenirs. Et quand je sens l'odeur d'un bon purin d'ortie bien fait et pas putréfié, juste bien fermenté, je dirais pas que ça sent bon, mais en tout cas, c'est une odeur que j'ai beaucoup de plaisir à sentir. Donc, une fois qu'on a fini ce stade de fermentation pour finir la recette, vraiment, à ce stade-là, on filtre le plus fin possible pour qu'il n'y ait plus de matière organique. On stocke ça dans des bidons opaques, à l'abri du trop de chaleur, donc au frais, stocké à l'extérieur de la maison, côté nord. Et on remplit le bidon vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bouchon pour qu'il n'y ait plus d'air dans le bidon. Et à partir de là, ça peut être stocké un certain temps. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des bidons de purin d'ortie que j'avais oublié depuis 11 ans.
Ah ouais.
Et je me suis dit, voilà, ça va être horrible. Et en fait, non, c'était bien stocké et pas d'odeur désagréable.
Donc le purin qui sent mauvais, tu fais bien de le dire parce que, ouais, ok, d'accord, ça marche. Maintenant, je revois ma recette. Et comme les auditeurs, si vous avez pris peut-être cette recette en cours de route ou si vous voulez vraiment la réécouter, eh bien c'est en podcast hein, sur cfmradio.fr, comment bien faire son purin, quelles plantes aussi utiliser. Voilà autant de sujets que l'on a abordés avec Rémi Kulik aujourd'hui dans ce chapitre consacré au purin dans plantes, histoire de plantes. Merci Rémi. Et la prochaine fois, c'est des excréments humains dont on va parler parce que eux aussi, ils peuvent et doivent même être utilisés dans le potager. On verra comment avec toi la prochaine fois. Merci Rémi.
À la prochaine. Merci.
A Soul Music de Natalie Cole, c'était le titre This Will Be.
Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur.
À Saint-Pétersbourg, en Russie, a lieu actuellement la Global Space Exploration Conference, un congrès scientifique international d'astronautique. Et hier après-midi, Pierre Muneuse du pays Cordée y présentait un projet innovant d'une future mission vers la Lune.
Nous avons été sélectionnés avec mon ami Guy Pignolet de la Réunion scientifique pour présenter un projet qui s'appelle Earth Moon Challenge Global Circus. Donc en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Avec mes amis de l'U3P, de l'Union pour la promotion de la propulsion photonique, dont Guy Pignolet est l'instigateur, on rêve d'envoyer un voilier solaire dans l'espace pour aller faire une photo de la face cachée de la Lune. Donc concrètement, on pose le voilier en orbite géostationnaire, on déploie la voile, les photons de la lumière vont appuyer sur la voile, ça va commencer à prendre de la vitesse, et en prenant de la vitesse, l'orbite s'agrandit, jusqu'à un moment passé derrière la Lune. Et à ce moment-là, on a un appareil photo, clic-clac, on prend la photo, et on a gagné le challenge.
Alors je m'arrête sur le principe que vous êtes en train d'imaginer. À l'heure où l'on parle de moyens de déplacement doux ici sur Terre, de se déplacer un peu différemment, de manière écolo, là tu es en train de me parler presque d'un mode de déplacement écolo pour aller dans l'espace.
Alors écolo dans l'espace, est-ce qu'on l'est, est-ce qu'on ne l'est pas? Bon, c'est un autre débat, mais la propulsion photonique permet surtout d'aller très loin, parce que on a juste besoin de lumière pour avancer. Donc on n'a pas besoin d'embarquer des réacteurs, que ce soit des réacteurs chimiques ou des réacteurs ioniques, qui sont des petits réacteurs qu'on a sur les satellites ou les sondes spatiales. Donc là, on a un système de propulsion inépuisable.
Une vidéo explicative résume le projet porté notamment par Guy Pignolet et Pierre Muneuse. Rendez-vous sur la page YouTube du Cirque des Cirques.
Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur.
Et les informations arrivent sur CFM Radio. Le Mag du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, une autre actualité de notre pays. Je vous souhaite